Chapitre 13. Lucie observe son violon sous toutes les coutures dans la lumière tamisée du magasin du luthier. Elle le pose sous son menton et joue rapidement les arpèges de la gamme en la majeur pour vérifier la qualité du son et de la résonance. Elle lance un grand sourire à Monsieur Vincent.
« C'est parfait !» annonce-t-elle en français. « Encore mieux qu'avant !»
Une chaleur se répand dans sa poitrine. Entre les nuits passées sur la plage ou sous les ponts, elle n'avait pas mesuré la douleur d'être séparée de son instrument, ni la colère qu'elle éprouvait pour les débiles avinés qui l'avaient cassée. Et surtout, à quel point un jouet lui manquait. Elle pose les billets de 20 € sur le comptoir, et M. Vincent lui prépare une facture qu'il détache de son carnet et lui tend. Puis il attrape 2 sucettes dans un bocal et les offre aux enfants.
« Prends soin de ta mère, » dit-il à Marco, « et de ta petite sœur. »
Une fois sortie dans la fraîcheur du soir, Lucie défait l'emballage de la sucette de Stella et la lui donne. Ils marchent jusqu'au centre-ville, les enfants absorbés par leurs friandises, le chien reniflant le pavé chaud à la recherche d'eau de poulet abandonnée ou de glace renversée. Lucie n'a pas faim. La rencontre avec Michael lui a complètement coupé l'appétit. Les touristes les plus âgés et les vacanciers avec des enfants cherchent déjà un restaurant pour dîner. C'est un public plus difficile que les couche-tards, qui boivent beaucoup et n'ont pas peur de s'approcher d'une femme en jupon et gilet sans manches avec un piercing au nez, un bracelet à la cheville, un décolleté, les bras fins et bronzés, et de ces 2 enfants magnifiques aux traits tirés qui sont assis derrière elle, dans l'ombre, sur un tapis de yoga, à côté d'un Jack Russell sale allongé sur le trottoir, la tête posée sur les pattes. Ils ne sont pas distraits par de jeunes enfants pleurant de fatigue et ne se demandent pas si Lucie va dépenser l'argent récolté en alcool et en drogue, si elle utilise les enfants et le chien pour les émouvoir, si elle les frappe quand ils rentrent à la maison et qu'elle n'a pas gagné assez. Au fil des ans, elle en a entendu des vertes et des pas mûres. On l'a accusée du pire. Elle a dû se forger une carapace. Elle sort un chapeau de son sac à dos, celui que Marco appelait la tirelire et qu'il appelle maintenant la casquette de mendiant. Il le déteste. Elle le pose sur le sol devant elle et ouvre l'étui de son violon. Elle vérifie que les enfants sont bien installés, Marco avec son livre, Stella avec un coloriage. Son fils lui lance un regard inquiet.
« Ça va durer longtemps ?»
Il a déjà cette insolence d'adolescent alors qu'il a tout juste 12 ans.
« Peut-être. Jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour une semaine à la Maison Bleue.
Ça fait combien ?»«
C'est 15 € la nuit. »« Pourquoi t'as pas demandé plus d'argent à papa? Il en a plein. Il aurait pu nous donner 100 € de plus sans problème. »
« Marco, tu sais très bien pourquoi. Tu sais ce qu'il m'a fait, ce qu'il t'a fait.
S'il te plaît, je m'y mets. »
Marco lève les yeux au ciel, puis les repose sur son livre. Lucie amène son violon sous son menton, avance le pied droit, ferme les yeux, inspire profondément et commence à jouer. La soirée se passe bien. La tempête a calmé le ciel. Il ne fait plus si chaud et les gens sont détendus. Ils sont nombreux à s'arrêter devant Lucie pour l'écouter. Elle joue des chansons des Pogues ou des Dixie's Midnight Runners, et pendant son interprétation de Come on Eileen, elle compte qu'au moins 15 € sont jetés dans le chapeau. Les gens dansent, rient. Un couple de trentenaires lui donne 10 € parce qu'ils viennent de se fiancer. Une vieille dame lui en donne 5 parce que son père était violoniste et que Lucie lui rappelle son enfance. À 21h30, Lucie a joué à 3 endroits différents et récolté environ 70 €. Elle regroupe les enfants, le chien et leurs affaires. Stella lutte pour garder les yeux ouverts, et Lucie regrette l'âge de la poussette avec laquelle elle pouvait transporter sa fille le soir, puis la mettre au lit sans la réveiller. Maintenant, il faut qu'elle se lève, qu'elle marche, et que Lucie se retienne de la gronder quand elle pleurniche parce qu'elle est trop fatiguée. La Maison Bleue est située à 10 minutes à pied, à mi-hauteur de la colline du château. C'est une longue bâtisse étroite, peinte en bleu layette, une maison de ville qui avait été autrefois élégante, construite pour avoir vue sur la Méditerranée, mais aujourd'hui le crépi grisonnant s'effrite au gré des intempéries. Les carreaux des fenêtres sont fissurés, du lierre s'insinue dans les gouttières. Un homme du nom de Giuseppe l'avait acheté dans les années 1960, l'avait laissé se détériorer, puis revendu à un propriétaire qui louait les chambres à des travailleurs itinérants. Une famille par chambre, des salles de bain partagées, des cafards, aucun équipement, paiement en liquide. Giuseppe vit encore ici, dans le studio du rez-de-chaussée, en échange de l'entretien des communs, du suivi des locations et d'un petit loyer. Il adore Lucie.
« Si j'avais une fille, dit-il souvent, elle serait comme toi, je te jure. »
Après ce qui était arrivé à son violon, Lucie n'avait pas pu payer le loyer pendant plusieurs semaines. Elle s'attendait à ce que le propriétaire la mette dehors, quand un autre locataire lui avait appris que Giuseppe avait payé le loyer à sa place pendant tout ce temps. Elle était partie immédiatement, sans dire au revoir. Lucie sent l'anxiété monter en elle, et quand elle aperçoit la maison au loin, la panique la submerge. S'il n'y avait pas de chambre pour eux, si Giuseppe lui en voulait de s'être sauvé comme une voleuse, s'il n'était plus là, s'il était mort, si la maison avait été ravagée par un incendie. Mais non, il vient ouvrir la porte, les observe dans l'interstice de l'entrebâilleur et leur sourit, découvrant une rangée de dents jaunies entre les poils poivre et sel de sa barbe. Il remarque le violon dans son étui et son sourire s'élargit.
« Ma fille !»
s'exclame-t-il en ouvrant grand la porte.
« Mes enfants ! Mon chien ! Entrez !»
Le chien est fou de joie et se jette sur Giuseppe qui manque de tomber à la renverse. Stella enlace sa jambe et Marco se rapproche du vieil homme qui embrasse le haut de son crâne.
« J'ai 70 €, c'est assez pour une semaine. »«
Si tu as ton violon, tu peux rester autant que tu veux. »« Oh, tu as maigri !» Vous avez tous maigri. J'ai que du pain et un peu de jambon. Ah, ça vaut pas de la bonne viande, mais j'ai du beurre pour l'accompagner.
Ils le suivent jusqu'à son appartement. Le chien saute sur le canapé et se roule en boule, les yeux posés sur Lucie comme pour lui dire « Enfin !» Giuseppe se rend au coin cuisine et revient avec du pain, du jambon et 3 bouteilles d'orangina. Lucie s'assoit à côté de Fitz, et soupire longuement en caressant sa nuque. Elle sent son estomac se dénouer. Puis elle plonge la main dans son sac pour vérifier que son portable est bien là. L'appareil n'a plus de batterie. Elle sort son chargeur.
« Je peux brancher mon téléphone ?» demande-t-elle à Giuseppe.
« Bien sûr, ma belle. Il y a une prise ici. »
Elle le branche et attend qu'il reprenne vie. L'alerte est toujours là. Le bébé a 25 ans. Elle s'assoit à table à côté de ses enfants et attrape une tartine. Les humiliations vécues cette semaine commencent à s'estomper, comme des traces de pas dans le sable recouvertes par les vagues. Ses enfants sont sains et saufs. Ils mangent. Elle a retrouvé son violon. Ils dormiront dans un lit ce soir. Elle a de l'argent dans son sac. Giuseppe observe les enfants, puis la regarde fixement en souriant.
« Je me faisais du mouron. Vous étiez passé où ?»
« On était chez un ami, » répond-elle d'une voix légère.
« C'est pas... »
commence Marco. Elle lui donne un coup de coude et se tourne vers Giuseppe.
« On m'a raconté ce que tu avais fait, mon coquin. Je ne pouvais pas l'accepter. C'était impossible. Et je savais que si je t'en parlais, tu allais me persuader de rester. Alors on a pris nos affaires et on s'est débrouillé autrement. Tout va bien. Tu vois, on est de retour. »
Elle tire le chien sur ses genoux et l'enlace.
« Et tu as fait réparer ton violon ?»«
Oui. Alors, tu as une chambre pour nous ? Pas forcément la même que d'habitude, n'importe laquelle conviendra. »«
J'en ai une, mais elle donne sur la colline. Il n'y a pas de vue. Elle est un peu sombre et la douche est cassée. Il y a juste un évier. Je vous la fais à 12 € la nuit. »«
Super. Merci. »
Elle pose le chien au sol et se lève pour prendre Giuseppe dans ses bras. Il sent le renfermer, la poussière. Il n'est pas très propre, mais elle ne s'en soucie guère.
Merci infiniment.
Cette nuit-là, ils dorment tous les trois dans le petit lit de place d'une chambre sombre qui donne sur l'arrière de la maison. Les bruits des voitures qui passent et freinent sur le goudron chaud s'ajoutent au claquement du ventilateur en plastique de mauvaise qualité, au son de la télévision, de la chambre voisine, et au bourdonnement d'une mouche coincée entre la fenêtre et le rideau. Stella a le poing collé à la joue de Lucie. Marco gémit dans son sommeil et le chien ronfle. Cela n'empêche pas Lucie de dormir d'un profond sommeil pour la première fois depuis une semaine.